On pourrait lire quelques bribes de Zacharie dans les chapitres 7 et 8. Je rappelle simplement que, d'une manière générale, donc Zacharie avec Agé étaient les deux prophètes qui ont parlé pour encourager le peuple pour recommencer à construire, enfin encourager le résidu, c'est-à-dire qu'il y avait un résidu. On utilise le terme de résidu parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, puisqu'ils étaient que 43 000 qui étaient rentrés de captivité. Et puis donc ils avaient recommencé à construire le temple, et puis c'était arrêté pour différentes raisons dont le livre d'Agé nous parle. Et puis donc au bout de 20 ans, il y a eu ces deux prophètes qui leur ont parlé pour les réveiller. Et puis donc on a tiré instruction de ces prophètes, et Zacharie en particulier. Alors c'est toujours frappant de voir la manière dont Dieu parle. C'est-à-dire, il parlait à des gens qui avaient cette préoccupation de reconstruire le temple directement à Jérusalem, et au fond, de quoi allait-il leur parler? Alors, Agé leur parle de certaines choses, et du fait qu'ils avaient recherché leurs propres intérêts, mais la prophétie, c'est là où ça nous concerne, nous sommes concernés directement. La prophétie ne s'occupe pas seulement des problèmes immédiats, directs, la reconstruction du temple, mais pour encourager les fidèles, la prophétie montre l'avenir. Mais le problème n'est pas de faire des prédictions sur ce qui va se passer. La prophétie, quand elle parle de l'avenir, elle a en vue le but final. Et alors, le but final, c'est avant tout, c'est la gloire de Christ, sous ses différents aspects. Et pour le peuple d'Israël, qui était un peuple terrestre, le royaume terrestre occupe une grande place. Mais tout le trajet intermédiaire, c'est-à-dire entre le moment où ils avaient à reconstruire le temple et puis le but final, bon, sur un plan pratique, nous savons que ça a tenu plusieurs millénaires, mais les 2000 ans derniers sont liés au temps de l'Église, au temps de la grâce. Alors ça, la prophétie de l'Ancien Testament saute à pieds joints là-dessus, l'ignore complètement, mais non pas l'ignore parce que c'est pas important, mais parce que c'est autre chose. C'est après le rejet du Seigneur, Dieu a fait quelque chose qui n'était pas annoncé, qui était son conseil quant à l'Église, et puis tout son propos quant à l'Église, et qui est un aspect céleste et non plus terrestre. Alors tout ça, la prophétie n'en parle pas, et c'est comme si elle joignait directement les problèmes du passé avec la gloire future du Seigneur. Alors on dira, mais tout ça, c'est pas très cohérent. Et puis cette gloire du Seigneur, elle est tellement lointaine que ça, c'était loin des problèmes pratiques de ceux qui devaient reconstruire le temple. Mais c'est justement que c'est une manière de parler que nous avons à retenir pour nous. C'est-à-dire pour nous. Nous avons des problèmes immédiats, pratiques, concrets. Le Seigneur veut nous encourager au travers de tout cela, mais une des manières d'encourager, c'est de montrer ce que lui va faire dans le futur. Alors on dira, oui, ben on sait bien que le Seigneur il vient venir nous prendre. C'est vrai, mais il faut que cela occupe nos cœurs. Il faut même que la reconstruction dont nous pouvons nous occuper dans le temps présent, il faut qu'elle soit en accord avec le propos lointain de Dieu. Alors c'est pour ça que, disons, peut-être que certains trouvent que la prophétie, notamment celle des petits prophètes, est compliquée à comprendre et qu'on n'en voit pas bien l'intérêt aujourd'hui. Mais c'est le contraire. C'est Dieu qui veut nous travailler dans le temps présent en nous occupant de ses propos futurs. Mais son propos futur, il passe forcément aussi intermédiairement par des jugements, des châtiments, des remises en ordre, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, ça c'était simplement quelques généralités, mais qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors, je voudrais lire un peu des chapitres 7 et 8 de Zacharie, mais les chapitres sont un petit peu longs, on va peut-être pas lire les textes en entier. Alors, de quoi il s'agissait? Chapitre 7, verset 1. Il arriva à la quatrième année du roi Darius que la parole de l'Éternel vint à Zacharie le quatrième jour du neuvième mois, au mois de Kislev, quand Bethel, c'est les gens qui habitent Bethel, envoya Shareser et Regem-Melech et ses hommes pour implorer l'Éternel pour parler aux sacrificateurs qui étaient dans la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes disant « Pleurerai-je au cinquième mois en me séparant comme j'ai fait voici tant d'années ?» De quoi il s'agit? Il s'agit donc, Zacharie avait déjà commencé à parler dans la seconde année de Darius, on a ça au premier verset de Zacharie, et là on en est à la quatrième année, c'est-à-dire 2 ans après la première prophétie. Alors, donc ils avaient commencé à être exercés sur les problèmes de reconstruction, et puis voilà qu'il y avait cette situation où il y avait un jeûne, spécialement ce jeûne du cinquième mois, et donc quand on voit dans la suite de ces chapitres 7 au chapitre 8 verset 19, il est parlé du jeûne du quatrième mois, du cinquième mois, du septième, du dixième. Il y avait toute une série de jeûnes qui étaient des mémorials. Mémorial, comme on est le 14 juillet, on fait la mémoire de ce qui s'est passé à la Révolution, mais là, il faisait la mémoire de ce qui avait eu lieu et qui était des destructions, soit du temple, soit de... Il y avait différentes catastrophes qui étaient arrivées et qui chacune justifiait un jeûne. Alors, ils avaient fait ça pendant peut-être 70 ans, peut-être pas complètement tous les 70 ans, mais enfin au moins une partie. Et puis les 70 ans où ils avaient été en captivité, puis au bout des 70 ans, donc ils étaient rentrés. Et alors, comme ils avaient recommencé à construire le temple, ils en étaient à se dire, bon ben, maintenant, comme on a la restauration, c'est plus la peine de se lamenter, c'est plus la peine de mener deuil et d'être humilié, maintenant on arrête. Au fond, c'était leur pensée, mais disons qu'ils ont quand même la droiture d'aller demander à l'Éternel, à Jérusalem, si ce qu'il fallait faire. Et alors, au fond, disons qu'on a là un peu le sujet de ces chapitres, c'est-à-dire qu'il y a eu des malheurs, des dispersions, des catastrophes parmi le peuple de Dieu, et alors... Évidemment, c'est un sujet triste et humiliant pour lequel on a certainement beaucoup, beaucoup supplié et prié. Et alors, quand le Seigneur donne des réponses, des encouragements pour retrouver quelque chose, est-ce qu'on arrête, on oublie tout ce qui s'est passé ou pas? Alors, au fond, on a ces deux chapitres, 7 et 8, qui traite un peu de ce problème-là. Alors, ces deux chapitres vont ensemble, mais on va voir que le chapitre 7, il traite plutôt de la question du pourquoi toutes ces affaires sont arrivées, pourquoi il y a eu ces jugements, ces châtiments, pourquoi l'Éternel a permis ça, c'est-à-dire ce qui était la justification de ces jeûnes. Et puis le chapitre 8, qu'il faut bien relier au chapitre 7, il faut pas le considérer comme un sujet indépendant, c'est un peu, j'allais dire, tout le contraire, c'est une promesse certaine de toutes les bénédictions que Dieu va faire. Mais alors, disons que c'est d'autant plus étonnant, le lien entre ces deux chapitres est d'autant plus étonnant, parce que on aurait pu dire, ben, puisque le chapitre 8 est en train de nous faire des promesses de restauration et de renouveau de bénédiction, eh ben, on oublie tout le passé, et on fait une croix dessus, et il n'y a plus besoin de revenir sur ces choses-là. Et alors, Au fond, c'est en cela que c'est important de voir comment Dieu occupe les pensées de ces deux aspects. Alors, la première chose, dans le chapitre 7, versets 4 et 5, donc la parole de l'Éternel des armées vint à moi, et il dit, parle à tout le peuple, quand vous avez jeûné, que vous vous êtes lamenté au cinquième, au septième mois, et cela pendant 70 ans, c'était bien pendant 70 ans qu'ils avaient tout fait ça. Et est-ce réellement pour moi, ou en note, il y a à cause de moi, est-ce que c'est réellement par rapport à moi, par rapport au Seigneur, dans le sentiment de ce que lui a été déshonoré, que vous avez fait ça, ou n'est-ce pas, verset 6, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buviez, c'est-à-dire est-ce que vous ne regardiez pas à vous-même, au malheur qui vous était arrivé et aux déceptions que vous aviez qu'on vous ait déporté dans un autre pays, ou bien est-ce que vous avez réellement considéré les choses par rapport à l'Éternel? Alors ça, c'est quelque chose de, au fond, déjà une première question qui est importante et puis intéressante. Voilà que il y a des malheurs. En quoi le Seigneur est déshonoré? Qu'est-ce que ça signifie par rapport au Seigneur? Les droits du Seigneur, ils sont où? Ou est-ce que vous regardez simplement à vos problèmes à vous? Et parce que, au fond, c'est bien une question importante de voir combien le Seigneur, il s'occupe de la, disons, de la conduite des siens, de tout ce qui leur arrive. Et alors, il continue, verset 7, « Ne sont-ce pas là les paroles que l'Éternel a criées par les premiers prophètes, alors que Jérusalem était habitée, jouissait de la paix, c'est-à-dire avant les 70 ans. » Et alors, il ramène donc à la parole des premiers prophètes. On a chanté dans le cantique, « À qui donc irions-nous? Tes paroles sont la vie éternelle. » Et alors, le cantique, en fait, il est basé sur les paroles de Pierre en Jean 6. Quand le Seigneur demande à Pierre, mais vous allez aussi vous en aller? Et puis Pierre répond, mais à qui donc irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais alors, disons que les paroles du cantique sont bonnes, mais elles sont pour des chrétiens. C'est tu as les paroles de la vie éternelle. Et tandis que là, s'agissant d'Israël, ils n'avaient pas les paroles de la vie éternelle, mais ils avaient les paroles des premiers prophètes. Et alors, qu'est-ce qu'ils disaient, ces premiers prophètes? Après, ça continue. Verset 8, la parole d'Éternel vint à Zacharie, disant, « Ainsi parle l'Éternel des armées, prononcez des jugements de vérité, usez de bonté, de miséricorde l'un envers l'autre, n'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger, l'affligé, ne méditez pas le mal dans votre cœur l'un contre l'autre. » Mais ils refusèrent d'être attentifs et opposèrent une épaule revêche et apesantirent leurs oreilles pour ne pas entendre et rendirent leur cœur dur, comme un diamant pour ne pas écouter la loi, les paroles que l'Éternel des armées envoyait par son esprit par les premiers prophètes, et il y eut une grande colère. Verset 13, comme il cria et qu'ils n'écoutèrent pas, de même ils crièrent et je n'écoutais pas. Et verset 14, et je les dispersais comme un tourbillon. Alors, quand on lit les versets 8 et 9, on a l'impression que c'est une nouvelle instruction que l'Éternel donne à son peuple, mais on voit que quand il est question, ils ont pas, verset 11, ils ont pas entendu, verset 12, ils se sont endurcis, et ils ont écouté ni l'Éternel ni les prophètes. En fait, ces premiers prophètes, ben, ils disaient la même chose que Zacharie dit à ce moment-là, dans les versets 9 à 10. Alors, prononcez des jugements de vérité, usez de bonté et de miséricorde l'un envers l'autre, n'opprimez pas la veuve, l'orphelin, ne méditez pas le mal dans votre cœur l'un contre l'autre. Alors, ce qui est assez frappant dans ces deux versets, c'est de se dire, mais attendez, il y avait la loi, elle avait les 10 commandements, et puis même, il paraît que les Juifs, quand ils comptent tous les commandements du Deutéronome, ils en trouvent 613. Et alors, qu'est-ce qu'on a de tous ces commandements, que ce soit 10 ou 613? Eh bien, on n'a que ces versets 9 et 10. Et puis, ces versets 9 et 10, ils sont spécialement dans la conduite l'un envers l'autre. Alors, il y a jugement de vérité, bon, la droiture, user de bonté et de miséricorde. Pas seulement de bonté, c'est miséricorde. C'est le cœur pour la misère. l'un envers l'autre. Et puis, ça se termine par le verset 10, « Ne méditez pas le mal dans votre cœur l'un contre l'autre. » Ne méditez pas le mal. On dit, mais qu'est-ce que c'est méditer le mal? Mais méditer le mal, c'est quand on s'occupe de tous les aspects du mal qu'il y a chez d'autres. Et soit on peut méditer sur ce qu'ils font, méditer sur ce qu'on pourrait leur faire, comment se venger, comment répondre, comment rétorquer. Il y a toutes sortes de façons de méditer le mal. Mais c'est très frappant de voir cette instruction catégorique et générale, ne méditez pas le mal dans votre cœur l'un contre l'autre. Alors, on voit que le fait de refuser d'être attentif et refuser d'être d'écouter, alors ça c'est une question générale, hein, l'importance d'écouter ce que Dieu dit. Alors, le résultat, c'est pas seulement, je dirais qu'il y a ou des punitions, ou bien des châtiments personnels. Mais on voit l'Éternel qui a, au milieu du verset 12, une grande colère. Et puis, après, ça en arrive au point que le verset 13, que l'Éternel n'écoute pas. Alors, nous avons des réunions de prière, nous donnons des encouragements, comment Dieu répond à la prière et tient compte des prières. Il y a de nombreux versets dans ce sens-là, mais on a cette situation où il peut arriver que Dieu écoute pas. C'est très solennel. Et alors, il écoute pas, justement, quand il y a ce manque de relation et d'égard l'un envers l'autre. C'est quelque chose qui est très très solennel. Et puis alors, c'est pas seulement donc la colère de l'Éternel, mais verset 14, les dispersés. Et le pays fut désolé, ça veut dire que comme ils étaient partis envoyés captifs à Babylone ou en Assyrie, ben le pays il s'est retrouvé vide. Bon, ça c'est... Il y a des chapitres entiers qui traitent de cette question-là dans le Lévitique et le Deutéronome, j'insiste pas. Mais alors on pourrait dire, bon ben on arrête là, maintenant il y a eu la catastrophe, on a manqué, l'Éternel écoute plus, il dirait, ben il n'y a plus de ressources. Et alors c'est là que le chapitre 8 intervient, et intervient de façon remarquable, exceptionnelle. Alors ça commence par donc le... Verset 2, ainsi dit l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. Alors on dit, ben ça y est, l'Éternel est de nouveau en colère contre eux. Mais pas du tout, quand il est dit qu'il est jaloux, c'est qu'il a tellement le désir du cœur de son peuple qu'il appelle Sion. Et une grande jalousie, c'est qu'il veut... Il veut le cœur de son peuple tout pour lui, et pas pour les idoles ou pour d'autres. Et alors quand il est en grande fureur, en fait c'est en grande fureur contre les nations qui ont contribué à tous les châtiments qui sont tombés sur son peuple. Alors ça c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Dieu envoie des châtiments, il utilise comme châtiment ces nations qui sont des non-juifs, ce qu'on appelle des gentils, mais qui sont pour la plupart des païens idolâtres. Et alors, voilà que on a cette situation qu'on retrouve à bien des endroits dans la parole, où Dieu utilise comme instrument des méchants, des mauvais, des païens. Alors on dira, mais comment c'est possible que Dieu utilise des moyens pareils? Mais Dieu utilise les moyens qu'il veut, et ça, c'est pas parce que les moyens qu'il utilise sont mauvais que c'est pas Dieu qui le permet. On a, c'est Jean 3, le vent souffle où il veut, et puis on retrouverait ça à d'autres endroits. Il y a même un endroit, je crois que c'est dans Ézéchiel, qui est assez incroyable, où Dieu donne un salaire à Babylone, il les paye pour châtier d'autres peuples. Mais je passe, mais ça montre une chose, c'est que il faut bien distinguer entre les instruments que Dieu utilise et ce que Dieu lui-même fait, ce qu'il opère. Et alors, donc, cette jalousie exprimée au verset 2 se concrétise au verset 3. « Je suis revenu à Sion, j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville de vérité, la montagne de l'Éternel, la montagne sainte. » Et verset 4, il y aura encore des vieillards et des femmes âgées assis dans les rues de Jérusalem, chacun son bâton à la main, et les places de la ville seront pleines de jeunes garçons, de jeunes filles jouant dans ces places. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ce pays qui était désolé, avec des habitants qui avaient été déportés, ben, il y aura de nouveau des habitants, d'autre part, il y en aura beaucoup, ensuite, il y aura toutes les générations, et ensuite on aura toutes ces générations qui vivent paisiblement leur vie normale, en bonne relation les uns avec les autres. Et c'est assez frappant de voir que même les gamins qui jouent ensemble, au fond, ça, même cela, ça a du prix pour Dieu, parce que c'est un indice de vie tranquille. Alors, chapitre 8, verset 6, « Ainsi dit l'Éternel des armées, si c'est trop difficile aux yeux du reste de ce peuple, en ces jours-là, serait-ce difficile aussi à mes yeux ?» Les gens là, de Jérusalem, effectivement, avaient certainement tendance à dire « Mais toutes tes prophéties, c'est bien beau, mais c'est quasiment impossible vu l'état dans lequel on est. » Et puis, disons que ce qui confirmerait ces objections, c'est que, au fond, le peuple, il est bien revenu, mais ce premier temple qu'ils ont reconstruit, il a dû être détruit et rebâti, ça a mis 46 ans au temps d'Hérode, je crois. Et puis, entre ce temps-là et la venue du Seigneur sur la terre, il y a eu près de 400 ans. Ils étaient encore, du temps du Seigneur, ils étaient encore sous le joug des Romains. Et alors, ces promesses-là, l'Éternel dit que pour lui, c'est pas très difficile de faire ces promesses-là. Mais alors, on voit que, en fait, Dieu les occupe de quelque chose qui est même encore futur pour nous. Alors, on dira, mais pourquoi il les occupe de tout ça? Mais parce que ça occupe du propos de Dieu, du conseil de Dieu, de sa gloire sur la terre et de la gloire quand le Messie aura tout restauré. Et c'est important de s'occuper de ces choses-là. C'est des encouragements, mais il faut comprendre, c'est des encouragements. Ça veut pas dire « ça arrivera demain, donc demain, tout ira bien ». C'est pas ça qu'il dit. Mais il dit qu'il y a un propos de Dieu de bénédiction, c'est sur lui qu'il faut compter, sa parole est ferme et immuable. Bon, Dieu sait en son temps comment il le fera, même là, il intercalera 2000 ans de christianisme. Bon, il n'en a évidemment pas parlé, et ça montre que effectivement Dieu utilise des moyens extraordinaires, mais n'empêche que c'est comme ça que Dieu occupe les cœurs et occupe les pensées. Verset 7, « Ainsi dit l'Éternel des armées, je sauve mon peuple du pays, du levant, du coucher du soleil, je les amènerai, ils demeureront, et Dieu est capable de tout, et il fera tout en son temps. » Mais alors, on comprend d'autant plus, à la fois ces paroles auxquelles nous avons à tenir, et à tenir ferme, à la fois pour être encouragé et à la fois pour y obéir, et les paroles des anciens prophètes, c'est-à-dire de toute la parole. À la fois, il y a ça, à la fois, Dieu accomplit son propos, mais évidemment, on ne sait pas comment il va s'y prendre, on ne sait pas exactement quand ça aura lieu, mais au fond, ça compte pas, on n'a pas besoin de savoir les détails. Ce qui compte pour nous, c'est les promesses de Dieu, ce qu'il fera, et l'encouragement que, de toute façon, on peut lui faire confiance, on peut compter sur lui. Il continue, alors au verset 9, il reprend des exhortations concrètes, immédiates. Et dans le verset jusqu'au verset 8, il occupait de l'avenir. À partir du verset 9, il revient dans des choses immédiates. « Que vos mains soient fortes, ô vous qui entendez ces jours-ci, ces paroles. » Alors, on voit que ça encourage au travail et au service pour la maison de Dieu immédiatement, alors que, comme je viens d'expliquer, les promesses que Dieu faisait ne seraient accomplies que dans des temps tant lointains. Mais il faut pas du tout que ça soit un sujet de découragement. C'est comme l'Apocalypse. L'Apocalypse, le temps de l'Église, il est dans les chapitres 2 et 3. À partir du chapitre 4, c'est plus l'Église. Alors on dira, ben, ça nous concerne plus, il n'y a pas besoin de s'y intéresser. Mais c'est le contraire. Ça montre ce que Dieu fait, ça montre qu'il s'occupe de tout, de tous les détails, et qu'il arrive à trouver des instruments pour faire sa volonté, et que de toute façon, ceux qui s'opposent sont réduits à néant. Alors, il s'agit bien, donc verset 9. Et donc, écoutez les prophètes, et puis il rappelle verset 10, « Car avant ces jours-là, il n'y avait point de salaire pour les hommes, point de salaire pour les bêtes, c'était là. » Il rappelle la désolation passée, il n'y avait point de paix pour celui qui sortait, qui entrait. C'est une façon de s'exprimer, il y avait de la violence partout. On est en plein dans cette condition-là dans notre pays aujourd'hui. Bon, il y a point de paix pour ceux qui sortaient, ceux qui entraient. En français, on dirait plutôt pour ceux qui vont et viennent. Mais c'est la même chose. Et puis, il y a cette expression qui est étonnante du fin du verset 10. Je lâchais tout homme, chacun, contre son prochain. Alors, ce qui est étonnant dans cette expression, c'est de voir que le châtiment qui était intervenu, c'était pas une action spéciale de Dieu, qui faisait jouer certains instruments, c'est le contraire, il laissait faire. Il lâche les gens et ils se battent entre eux. Je lâchais tout homme, chacun contre son prochain. Bon, alors, évidemment, ça nous éclaire beaucoup quant à l'état du monde actuel, mais c'est aussi un avertissement solennel dans l'Assemblée, un avertissement solennel pour les relations entre les frères et sœurs, entre les croyants, c'est si Dieu nous laisse faire, il nous laisse faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'occuper du bien des autres ou on va s'occuper contre son prochain? C'est une expression qui est tout à fait remarquable, cela. Je lâchais tout homme, chacun contre son prochain. Alors, verset 11. Mais maintenant, je ne serai pas pour le reste de ce peuple comme dans les premiers jours. Autrement dit, ça va changer. La semence prospérera, la vigne donnera son fruit, il y aura de la bénédiction, je ferai hériter. Et puis, on voit ce moment-là, verset 13. Non seulement il y a la bénédiction entre vous, parmi vous, mais il arrivera que, comme vous étiez une malédiction parmi les nations, maison de Juda, maison d'Israël, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction. On voit que la bénédiction promise, elle est non seulement pour les croyants, les fidèles, mais elle s'étend au dehors. On dira, mais on ne va pas y arriver, de toute façon, à ça. Alors, fin du verset 13, « Ne craignez point que vos mains soient fortes. » Et alors, verset 14, « Comme j'ai pensé à vous faire du mal, c'était en châtiment, quand vos pères m'ont provoqué à la colère. » Et verset 15, « Ainsi j'ai pensé de nouveau en ces jours-ci à vous faire du bien. » Il y a un changement. « Ne craignez point, il le répète. » Et alors, les versets 16 et 17, il y a quelque chose d'assez étonnant. « Parlez la vérité, chacun à son prochain. Jugez selon la vérité, prononcez un jugement de paix dans vos portes, ne méditez pas le mal dans vos cœurs, chacun contre son prochain. » Et qu'est-ce que c'est ces versets-là? Mais c'est exactement les versets qu'on avait eus au chapitre 7, versets 9 et 10. Ils répètent à peu près la même chose. Et alors, c'est assez frappant, au fond, de voir que dans le passé, il y a eu le manquement sur ces choses-là. Il y a eu des dispersions, châtiments, parce qu'on n'a pas écouté et tenu compte de ce que Dieu avait dit. Alors voilà qu'il y a une restauration, un renouveau, Dieu rétablit, il fait ses promesses, et alors on va repartir sur des nouveaux principes. Il dit, mais non, les paroles de Dieu, elles ne changent pas, c'est toujours les mêmes, et ce qu'il a dit autrefois, ben c'est encore ce qu'il dit maintenant. Ce qu'il fallait faire autrefois, c'est encore ce qu'il faut faire maintenant. Et ne méditez pas le mal dans vos cœurs. Chacun compte son prochain, et ben ça subsiste intégralement et tel quel. Alors c'est très frappant, c'est un des points qui est assez extraordinaire dans ces chapitres 7 et 8. C'est à la fois le souvenir de ce qui est arrivé dans les malheurs passés, mais un souvenir, il s'agit pas de nostalgie, de dire ben autrefois c'était meilleur. L'Ecclésiaste dit c'est pas par sagesse que tu t'enquières de ça. Bon, mais c'est le souvenir de ce qu'il y avait pour savoir ce que Dieu a dit et dans quelle mesure on en a tenu compte. Et maintenant, il y a toujours ces promesses de bénédiction, et le Nouveau Testament abonde en promesses de bénédiction. Mais toujours cette pensée, écoutez ce que Dieu a dit, et puis on voit que donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, parmi tous ces commandements, ces nombreux commandements de la loi, ben, on a l'insistance sur les relations mutuelles l'un par rapport à l'autre. Alors, la question pouvait se poser, bon ben, il y avait ceux de Bethel qui étaient venus pour demander ce qu'il fallait faire, s'il fallait continuer les jeûnes, et alors, ils auraient pu dire, bon ben, on est venu poser des questions, puis ils nous aient pas répondu. Et alors, les réponses, eh bien, on a justement cela dans chapitre 8, dans les versets 18 à 23. Voilà que c'est ces jeûnes. La question initiale, c'était sur un jeûne, celui du quatrième mois. Puis après, au chapitre 7, il était question de deux jeûnes. Puis maintenant, il est question de quatre jeûnes. Eh bien, il est dit, qu'est-ce qu'il en deviendra de tout ça? Ils seront pour la maison de Judas allégresse et joie, d'heureuses assemblées. Mais alors, la réponse, là aussi, il faut peser exactement ce qui est dit. La parole est toujours d'une exactitude remarquable. Il n'est pas dit, mais arrêtez donc les jeûnes, parce que tout va tourner bien, c'est pas la peine. Mais ce qui est dit, c'est pas ça. Ce qui est dit, c'est que c'est vrai, il y aura un changement. C'est vrai que ces temps de jeûne deviendront allégresse, joie et heureuse assemblée. La promesse du Seigneur demeure, ça c'est son côté. Mais il y a le côté du croyant, de nous. Aimez donc la vérité et la paix. Il y a le côté de la souveraineté et de la grâce de Dieu, puis il y a le côté de la responsabilité de nous. C'est-à-dire, il y a toutes ces recommandations, écoutez la parole, qui ont toute leur importance. Mais la bénédiction, c'est pas seulement une bénédiction où il y aura de l'allégresse, de la joie, c'est pas seulement où il y aura des, comme on a vu au verset 4 et 5, une vie paisible dans les villes. Mais les peuples, verset 20, les peuples et les habitants de beaucoup de villes iront l'une à l'autre, disant, allons, implorons l'Éternel des armées. Il y a une recherche commune de supplier l'Éternel, et beaucoup de peuples et de nations puissantes iront pour rechercher l'Éternel des armées, pour implorer l'Éternel, et ça ira même au point que 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront les pans de la robe d'un homme juif, disant, nous irons avec vous. Pourquoi ? Parce que nous avons ouï dire que Dieu est avec vous. Alors, cette présence au milieu de son peuple, de Dieu au milieu de son peuple, on voit que c'est quelque chose d'essentiel. On voit une bénédiction qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est d'autant plus frappant quand on voit le peuple d'Israël en guerre. Et puis une guerre qu'on n'arrive pas à voir comment elle va s'arrêter. Mais en fait, elle va jamais s'arrêter. Il suffit de lire l'Apocalypse et tout pour s'en rendre compte. Et puis les prophètes, même Zacharie. Mais il arrivera un moment, le moment final, où la présence du Seigneur au milieu de son peuple terrestre, alors j'insiste, terrestre, parce que pour le christianisme, c'est une espérance différente, céleste, mais comme Dieu est le même, que ses caractères restent le même, et nous avons instruction à retirer de ce qu'il a fait dans le passé. Mais on voit une bénédiction qui est surabondante, puisque ce peuple qui était maudit, eh bien, il y a 10 hommes qui courent après un seul pour les supplier de pouvoir marcher avec eux. Bien, retenons retenant un peu toutes ces instructions sur les promesses de Dieu, l'assurance donnée par ses paroles qu'il faut écouter, et puis se poser toujours les bonnes questions pour est-ce que nous avons toujours écouté dans le passé, et est-ce que nous avons suivi ou bien est-ce que l'Éternel a été obligé de châtier, de disperser.